Depuis le cessez-le-feu, les prix des carburants à la pompe ont baissé en moyenne d'à peine un centime. Et la tension dans le détroit d'Ormuz va faire sans doute remonter les prix. Regardez le prix moyen à la pompe. C'est pris aujourd'hui à 11h. On est à 2 euros le sans-plomb 95, un peu plus de 2,98 le sans-plomb 98. Quant au gasoil, en moyenne, il est à 2,33. Bon nombre de pays européens ont pris des mesures pour soutenir les automobilistes. C'est ce qu'on va voir maintenant avec vous, Nargis Hadji. En Europe, les réponses, c'est vrai, quand on regarde pays par pays, elles sont assez variables.
Bonsoir Alain, en effet, et cette question évidemment que l'on se pose, la France va-t-elle finir par être l'un des derniers grands pays européens sans proposer de ristourne à la pompe? L'Allemagne, c'est la dernière en date. Le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé aujourd'hui une ristourne. Le chancelier allemand, environ 17 centimes de moins par litre pour tous les automobilistes. Alors l'objectif, évidemment, soutenir les ménages, mais aussi les entreprises fragilisées par cette flambée des prix. L'opération, attention, elle est temporaire, elle ne devrait durer que 2 mois. L'une des baisses les plus importantes en Europe nous vient de nos voisins espagnols. Le gouvernement de Pedro Sanchez a mis en place, il y a plusieurs semaines déjà, une baisse de la TVA sur les carburants jusqu'à 10%. Et l'effet, le voici, jusqu'à moins 30 centimes donc par litre à la pompe. En Italie, vous allez le voir, la réponse de Giorgia Meloni de son gouvernement est à peu près similaire. Une réduction d'environ 25 centimes par litre pour l'ensemble des consommateurs, et ce, sans condition de revenu. Et ailleurs en Europe, la Pologne, il y a déjà plusieurs jours, a réduit la TVA et introduit un prix maximum à la pompe. La Grèce, de son côté, a opté pour 4 subventions ciblées. Chypre, enfin, a annoncé un plan de soutien de 200 millions d'euros.
Merci Nargis Hadji.
Nous sommes avec le député RN Gaëtan Dussausset, député des Vosges et porte-parole du Rassemblement National.
Bonjour.
Vous avez vu, hein, les Espagnols, les Italiens et maintenant les Allemands avec une ristourne de 17 centimes par litre. Vous demandez la même chose en France ?
Bien sûr, et pas uniquement d'ailleurs que dans un contexte de super inflation des prix énergétiques du fait du contexte international. Ça fait depuis 2022 qu'avec Marine Le Pen, on défend cette proposition de baisse de la TVA de façon structurelle de 20 à 5,5% sur l'intégralité des énergies.
Le carburant est trop taxé en France ?
Vous savez que quand un Français va faire le plein et remplit le réservoir de sa voiture, il a plus de 50% de ce qu'il paye à la fin qui correspondent à des taxes. Donc à un moment donné, c'est plus possible. Entre la TVA, l'ex-TICPE sur les produits pétroliers, plus la TVA sur la TICPE, plus maintenant les certificats d'économie d'énergie qui apportent aussi une charge d'environ 17 centimes par litre. Tout ça est une hyperfiscalité qui évidemment pénalise le pouvoir d'achat des Français qui ont besoin de leur véhicule. Et nous, on le redit encore une fois, le carburant n'est pas un produit de luxe, c'est un produit de première nécessité. Il faut donc une fiscalité adaptée à cette nécessité.
Les mesures annoncées en Allemagne vont coûter 1,6 milliard d'euros pour 2 mois seulement. On n'a pas les moyens de dépenser ça en France.
Vous savez, il y a un petit mensonge de la part de la Macronie, c'est de faire croire qu'on n'aurait pas ces 10 milliards d'euros. Ces 10 milliards d'euros, en réalité, ils existent. Il n'y a pas besoin, moi je ne suis pas un socialiste ou un macroniste qui va vous dire qu'on va trouver ces 10 milliards d'euros en créant de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts. Ces 10 milliards d'euros, c'est par exemple la différence nette qu'il y a entre ce que l'on donne chaque année et ce que l'on reçoit à l'Union européenne. C'est exactement, par exemple, une partie
du jour au lendemain, on dit on ne donne plus l'argent à l'Union européenne, on le récupère pour le carburant.
On récupère déjà au moins la différence de ce que l'on donne chaque année. Il y a 10 milliards d'euros que l'on perd entre ce que l'on donne à l'Union européenne et ce qu'on reçoit, y compris quand on prend en compte les aides agricoles. Même chose sur les aides sociales.
Oui, on se rappelle il y a quelques mois.
Et pas dernièrement, puisqu'ils ont encore augmenté notre contribution de 5 milliards d'euros.
Budget précédent.
Mais vous prenez par exemple sur le coût de l'immigration, aujourd'hui on a 18 milliards d'euros chaque année qui permettent de payer des aides sociales à des étrangers sans aucune contribution en contrepartie. Donc ces 10 milliards d'euros, il faut aller les chercher. Nous avions, au moment des débats budgétaires qui ont duré plusieurs semaines et plusieurs mois, on s'en souvient, défendu un certain nombre de mesures.
Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut débloquer dans 3 jours.
Mais si vous voulez, quand on fait un budget, quand on cherche de quoi financer des mesures, et nous on assume de vouloir avoir des mesures pour défendre et protéger le pouvoir d'achat des Français.
Mais là, il y a une urgence.
Eh bien, c'est des choix politiques.
Il y a une urgence. S'il y a une mesure à prendre, il faut la prendre tout de suite.
Ben, bien sûr. Dans ce cas-là, on fera aussitôt, comme on le réclamera d'ici quelques semaines, un projet de loi de finances rectificative pour justement permettre le financement de ces mesures pour le pouvoir d'achat. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a urgence avec ces records à la pompe.
On va aller à l'Assemblée nationale retrouver Hugo Capelli en direct pour BFM TV parce que le Premier ministre Sébastien Lecornu se retrouve véritablement sous la pression des députés et presque quel que soit le bord d'ailleurs.
au regard de ce qui se passe dans certains pays européens, notamment en Allemagne, avec cette baisse de la taxe sur les carburants, eh bien, les députés français, eux aussi, ont des attentes pour notre pays, à l'image d'Éric Ciotti, qui a écrit un message sur ses réseaux sociaux. Baissons les taxes maintenant, a-t-il dit. Message quasi similaire aussi du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui dit la chose suivante. Qu'attend le gouvernement? Eh bien, le gouvernement, il espérait en ce début de semaine que les prix à la pompe baissent un peu plus finalement que ça n'est le cas en ce moment où je vous parle. Sébastien Lecornu, qui avec la situation au Moyen-Orient et les cessez-le-feu, pensait que ça pouvait baisser davantage. Alors désormais, il y a plusieurs possibilités, plusieurs scénarios pour Sébastien Lecornu. Celui qui est privilégié par le gouvernement, ce n'est pas une baisse des taxes, mais c'est plutôt une aide ciblée pour les travailleurs qui utiliseraient beaucoup leurs véhicules et dont le portefeuille a été touché par cette crise énergétique. À voir donc si cette aide ciblée est activée dans les prochains jours. Tout cela, évidemment, dépendra de la situation à la pompe.
Voilà, Hugo Capelli en direct de l'Assemblée nationale avec Adrien Fache.
Oui, c'est vrai que le pari du gouvernement, c'était avec le cessez-le-feu, ça va baisser. D'ailleurs, Sébastien Lecornu nous avait donné rendez-vous aujourd'hui en disant, vous allez voir, à partir de lundi, on verra des baisses. Malheureusement, il y a le blocus du détroit d'Ormuz. Le pétrole est toujours à plus de 100 dollars le baril. Donc, il y a peu de chances de voir dans les jours qui viennent de fortes baisses.
Oui, mais il est vrai que la semaine dernière, l'Union française des industries pétrolières avait expliqué que si et seulement si le prix du baril de pétrole restait aux alentours de 95 dollars, on pouvait espérer une baisse des prix du carburant de 5 à 10 centimes au début de cette semaine. Le problème, c'est que très rapidement, le prix du baril de pétrole est reparti à la hausse. Actuellement, il se stabilise à 100 dollars, ce qui explique qu'aujourd'hui, on ait une baisse de seulement 1 centime. Le problème, c'est que personne autour de cette table, ce soit ni nulle part ailleurs dans le pays, n'est capable de prédire quels seront les prix des carburants. Pourquoi ? Parce que la situation, elle évolue en permanence. On est aujourd'hui sur un détroit d'Ormuz que l'on dit bloqué par les Américains et par les Iraniens. Que va-t-il se passer ? Ils vont se taper dessus, il va y avoir des pétroliers qui vont exploser. Personne n'est en mesure de dire ce qui va se passer. Donc forcément, il y a une très grande volatilité sur le prix
en attendant,
des marchés.
Donc en attendant, à la pompe, ça ne va pas bouger.
Et bien, comment voulez-vous que ça bouge, en fait ? Ça
peut bouger à la hausse.
Ça peut effectivement évoluer à la hausse comme à la baisse si la tension retombe dans le détroit d'Ormuz. On peut effectivement espérer une petite baisse des prix du baril de pétrole, comme on peut envisager aussi une très nette progression de ces prix dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
L'entourage du Premier ministre, qui j'ai changé tout à l'heure, qui clairement en coulisses disait qu'il n'était, même dire, c'était du tout un coup de gueule, un coup d'épée dans l'eau, mais pas content effectivement du fait que et que 1 centime de baisse en moyenne, là où il avait parlé de 5 à 10 centimes, et qu'effectivement, il avait demandé une analyse approfondie des ministres pour voir pourquoi est-ce que ça ne baissait pas davantage. Ce que disent les spécialistes, c'est la théorie, je crois que ça s'appelle de la plume et de la fusée. Non, c'est ça, c'est que effectivement, on constate une nouvelle fois que les prix, quand ça augmente, ça part comme une fusée. Quand ça redescend, pour avoir l'image, vous voyez la plume.
C'est l'ascenseur et l'escalier.
Monsieur Chilansky va peut-être expliquer au Premier ministre pourquoi ça ne baisse pas alors.
Ça a baissé, mais le problème, c'est que le brut est reparti tout de suite à la hausse. Aujourd'hui, on est à 100 dollars le baril. On était à 110, on est descendu à 95. Aujourd'hui, on est à 100 dollars le baril. Je crois néanmoins que la probabilité de hausse est plus forte que la probabilité de baisse. Ce qui
Optimiste.
Se passe aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz ne tend pas à faire croire que le prix du baril va baisser. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on va se priver, entre guillemets, ou le monde va se priver du pétrole iranien. Mm-hmm. 2 millions de barils par jour, qui étaient exportés par l'Iran le mois dernier, ce qui leur apportait 200 millions de dollars par jour aux Iraniens.
200 millions de dollars par 200 jour.
200 millions de dollars par jour. Donc ça va cesser. Et d'autre part, la tension géopolitique qu'il va y avoir autour de cette affaire-là va faire que, possiblement, le pétrole va augmenter.
Oui, parce qu'il faut rappeler que... est-ce que nos voisins ont raison de jouer sur des mesures fiscales, sur des ristournes pour alléger le porte-monnaie des automobilistes. Alors, il y avait les Espagnols très vite, les Italiens, puis maintenant les Allemands, avec pourtant leur orthodoxie budgétaire, mais ils n'hésitent pas à mettre 1,6 milliard sur la table pour aider les automobilistes allemands.
Parce qu'ils les ont. Ils ont cette flexibilité budgétaire que la France n'a pas, malheureusement.
Nous, on est coincés, en fait, à cause de ça.
On est coincés.
C'est ce que dit le gouvernement.
Je voudrais simplement dire une chose, simplement pour non pas pour vous répondre, mais pour apporter quelque chose à ce que vous avez dit. Ce qu'ils font, c'est une diminution de la taxe intérieure sur une période.
Oui, 2 mois.
2 mois pour les Allemands. Ça n'est pas une diminution de la TVA.
Non.
Parce que diminuer la TVA, c'est plus compliqué et c'est surtout très difficile à remonter.
Mais on est sûr qu'ils auront qu'il y aura 10 centimes, 17 centimes de moins à la pompe, genre de mesure, oui, immédiat.
À partir du moment où vous baissez la taxe, c'est automatique.
D'accord.
Hein, c'est le prix.
Est-ce qu'on pourrait le faire en France?
Bien sûr. On peut le faire demain matin.
Demain matin, on peut le faire. Ça coûte 1,6 milliard et on rend 17 centimes aux automobilistes.
En jouant sur quel levier?
La taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, l'ancienne TIPP.
Ouais. Ah, d'accord.
C'est une ristourne sur la TIPP, qui s'appelle la TICPE maintenant. C'est tout simple, c'est ce qui a été fait il y a quelques années. Et à partir du moment où vous baissez cette taxe, c'est automatique. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas
On va en parler avec Daniel Guilherme, qui est le président de la Fédération nationale des infirmiers. Bonsoir, monsieur Guilherme. Parce que votre secteur d'activité, les professionnels de la route que sont aussi les infirmiers, c'est dur pour eux quand ils font leur plein. Est-ce que vous souhaitez autre chose que les aides ciblées? Est-ce que vous souhaitez une baisse des taxes?
Le carburant pour nous, ce n'est pas un choix, hein, c'est une obligation. Et une obligation d'autant plus qu'on ne peut pas en fait nous répercuter ces hausses sur nos tarifs, hein, sur le coût de nos soins. Donc nous, on a entendu Sébastien Lecornu, hein, sur sa proposition effectivement de plan qui consistait à avoir en fait un accès au leasing social. Pour nous, en fait, ça s'inscrit dans le sens de la transition, mais il est aujourd'hui, pour nous en tout cas, déconnecté de l'urgence actuelle. On a des mesures proposées qui sont trop éloignées de la réalité quotidienne des infirmières et des infirmiers libéraux. C'est un plan qui est un plan à long terme qu'on nous propose et nous avons aujourd'hui un problème à court terme.
On vous propose finalement de passer à la voiture électrique. C'est le message de M. Lecornu depuis le début de cette crise. Enfin bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
50 000 véhicules supplémentaires à partir du 1er juin.
Voilà. Ça se fait pas du jour au lendemain et on n'a aucune précision sur le plan en fait qui nous est proposé. Donc aujourd'hui, on est un petit peu dans le flou. Nous, ce qu'on demande, c'est une exonération partielle de la TICPE, hein, ciblée sur les infirmiers libéraux. On sait qu'on a d'autres secteurs qui ont des mécanismes d'adaptation. Nous demandons, nous, de rentrer dans la même logique.
Mais racontez-nous les conséquences de cette crise pour votre profession. Est-ce que concrètement, il y a des soins qui ne sont pas faits à cause du prix à la pompe?
Alors aujourd'hui, on a déjà des professionnels qui nous disent, on a des remontées de terrain en ce sens, hein, de professionnels qui sélectionnent leurs patients au regard de la distance qu'il y a entre leur cabinet et le domicile des patients. Et ça, c'est surtout vrai en sortie d'hospitalisation. Alors, nous, on essaye de faire comprendre au gouvernement qu'il risque d'y avoir un problème d'accès aux soins à court et moyen terme, et qu'effectivement, on risque d'avoir des patients qui vont rester plus longtemps à l'hôpital, donc avec un surcoût pour la collectivité, qui pourrait être compensé aujourd'hui, ou en tout cas effacé par des aides spécifiques sur notre secteur.
Mais ce que je comprends pas, Guillaume Darès, c'est que le gouvernement avait promis d'aider notamment les libéraux et les infirmiers avec des annonces qui devaient être faites.
Pour l'instant, rien de neuf, effectivement. Le gouvernement a dit simplement par la voix du ministre des Comptes Publics, David Amiel, que les aides qui ont été décidées jusqu'à maintenant pourraient être reconduites dans les mois à venir si le conflit durait des mois, avec deux conditions toujours, hein, notamment la condition effectivement du sérieux budgétaire. On l'a vu sur l'enveloppe qui a été débloquée de 70 millions d'euros. C'est pas de l'argent dépensé en plus, c'est de l'argent qu'on a coupé par ailleurs. Donc toujours avec cette règle de rigueur budgétaire. Mais c'est vrai que pour l'instant, les aides qui étaient attendues pour les professions libérales et en particulier les médecins libéraux ou les infirmières libérales ne sont pas arrivées.
Ça, monsieur le député, vous comprenez que finalement le gouvernement joue un peu la montre, hein. Il n'a pas envie de dépenser de l'argent qu'il n'a pas.
Oui, bon, le problème, si vous voulez, c'est qu'on commence à avoir énormément de doutes aussi sur la véracité de ce que nous dit le gouvernement. Parce que plusieurs fois, d'ailleurs, depuis plusieurs semaines, on a vu le gouvernement nous assurer qu'on ne devait pas s'inquiéter, qu'il n'y aurait pas une explosion des prix. Aujourd'hui, on atteint des niveaux records au prix à la pompe. Nous dire qu'il n'y aurait pas d'enrichissement pour l'État. Par la suite, M. Sébastien Lecornu lui-même a remarqué qu'il y avait en effet un surplus fiscal de 270 millions d'euros, mais qui a été annoncé par le Premier ministre lui-même. On nous avait expliqué que les certificats d'économie économie d'énergie et le fait que Monsieur le Premier ministre, en début d'année, par décret, ait décidé d'en augmenter la charge de 2 milliards d'euros n'aurait pas d'impact sur le consommateur. C'est aujourd'hui 17 centimes à la pompe par litre. Donc comprenez qu'on a du mal en fait à avoir confiance dans ce gouvernement. Maintenant, il y a un levier, si on veut agir directement, c'est celui de la fiscalité. Vous aviez parlé des différents pays européens qui agissent. Oui, il y a l'Allemagne qui agit sur la TICPE, l'Italie agit sur la TICPE aussi, l'Autriche, la Serbie. L'Espagne a fait le choix d'agir sur les deux, TICPE, mais aussi TVA, sortant même d'ailleurs des injonctions de la Commission européenne, puisqu'elle a fixé un seuil de TVA qui est en deçà des obligations européennes. Donc si l'Espagne peut le faire, je ne vois pas pourquoi la France, deuxième contributrice au budget de l'Union européenne, serait
peut-être parce que l'Espagne a mieux géré, parce que l'Espagne a une meilleure croissance, peut-être parce que l'Espagne n'a pas fait un quoi qu'il en coûte que nous payons aujourd'hui. C'est ça qui a été un mélange. Hein. La raison aussi, c'est qu'on a... On n'a pas de gras, comme on dit.
On n'a pas de gras. On a sorti le carnet chèque un peu vite en 2022 et 2023. On a
et du coup, facture, on ne peut pas le sortir là, mais ça, c'est vrai que c'est aujourd'hui. Moins non, compréhensible.
Regardez, il y a aussi une autre situation à laquelle on est confronté aujourd'hui. On a une remontée des taux. On a une remontée des taux. Aujourd'hui, on est en train d'emprunter à des taux qui sont considérablement élevés. Résultat, la charge de la dette en France aujourd'hui, c'est le premier poste de dépense budgétaire. Donc, les mesures, c'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement veut réserver ces mesures pour des secteurs en particulier qu'il enfin, attend aussi peut-être
il
que
oublie les
de
voir libérales.
Mais non, pas du tout, il les oublie pas puisque dans le plan d'électrification, pardon Olivier,
dans il leur dit d'acheter des voitures électriques.
Eh ben oui, 50 000 voitures supplémentaires à partir du 1er juin pour les secteurs qui sont les plus en difficulté.
Une infirmière qui gagne 2 000 euros par mois, non, là, qui veut savoir comment cette semaine elle va faire.
Vous ne pouvez pas dire que rien n'est fait, il y a des mesures qui sont peut-être pas suffisantes.
Si Emmanuel Macron devait se représenter dans 3 mois, peut-être qu'il débloquerait plus facilement des aides.
Dans 2 mois lorsqu'on aura un prix du carburant à 3 euros.
Non mais pardon, Gaëtan.
On fera encore des chèques.
Mais Gaëtan, on fait de la politique. On fait de la politique. Et je parle sous la responsabilité de Guillaume Daret. Emmanuel Macron ne se représente pas. Il n'y a pas d'échéance électorale à venir. Donc effectivement, on peut tenir.
Et donc, on dépense l'argent n'importe comment.
C'est sûr que si Emmanuel Macron avait une présidentielle à préparer,
c'est vrai
à mon avis, peut-être
mois,
qu'il débloquerait de l'argent.
Rappelez-vous, les 6 mois précédant l'élection présidentielle de 2022, il y avait eu des critiques, y compris dans son camp. Et c'était peut-être un peu facile, mais postérieurement aussi, par exemple, par quelqu'un comme Bruno Le Maire, qui avait dit... À chaque sortie, c'était un chèque.
On cramait la caisse.
Tout à fait.
Donc, ça, c'était Valérie Pécresse, effectivement, qui avait repris.
Ça a commencé avec les gilets jaunes.
Tout à fait.
D'une manière, par rapport à ce qui se passe en ce moment, au détroit d'Hormuz, à la tension. Admettons que demain, l'Iran et les États-Unis signent un cessez-le-feu, un petit peu, un accord de paix provisoire. Mais combien de temps les prix descendraient ?
Très rapide, là.
D'accord. Donc il faudrait vraiment la paix pour que ça redescende.
Si demain matin, il y a un accord et que le détroit d'Hormuz est réouvert et il y a libre circulation des pétroliers, le brut redescend dans
$90.
Quelques jours.
Et dans les stations.
$70 le baril.
Et dans les stations.
$70 le baril. Et dans les stations, ce sera quelques jours, j'en sais rien. Peut-être.
Mais ça ira très vite.
Parce que le mouvement sera très brutal et très important.
Mais on ne retrouvera jamais les prix d'avant la crise.
C'est ce que dit Leclerc.
On reviendra au prix d'avant la crise. $70 le baril.
Non, d'accord. Leclerc, il dit qu'on ne retrouvera jamais ces prix-là.
Non, mais à la pompe.
À la pompe, on redescendra en dessous de 2 euros du litre.
Bah oui,
90 à 70.
Oui, mais on restera haut.
On restera quand même assez haut, oui. Assez haut.
Donc ça, il faut quand même l'entendre. Parce qu'on
jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on avait des prix qui n'avaient jamais été aussi bas depuis plusieurs mois et plusieurs années.
Je voudrais juste ajouter une chose. 20 centimes du litre de carburant, c'est 10 milliards par an. Et donc, c'est considérable. Hein, c'est pas une petite mesure.
Ça montre aussi l'ampleur des taxes.
On va refaire le tour de la situation internationale en focalisant, en regardant précisément aujourd'hui où se concentre l'attention.